on veut fournir des perspectives, une transition énergétique qui soit sérieuse, mais qui permette d'envisager un monde bas pétrole, bas carbone, où boire du café, manger du chocolat est tout à fait possible, heureux et normal.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffray.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Activer l'économie circulaire. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Legrand. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, très content de te retrouver parce que tu vas nous raconter un peu ton histoire que je trouve assez extraordinaire. Mais déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Merci beaucoup, Brieux. Alors, je m'appelle Guillaume Legrand, j'ai 38 ans, je suis cofondateur et président de Tao Transport à la Voile. Voilà.
Ok, parfait. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours, comment tout simplement tout ton parcours t'a amené à créer Taut et parler de transport à la voile, surtout en 2020. Alors c'est pertinent, mais pour ceux qui découvrent Taut en nous écoutant, ça a déjà quasiment une dizaine d'années, donc je pense que tu vas avoir pas mal de choses à nous raconter. Mais avant de nous raconter ces 10 ans, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ton cheminement jusque-là?
Bien sûr. Oui, l'idée n'est pas venue comme ça, n'est pas tombée du ciel un matin. Petit, dans les années 90, du côté de Bénodet, sur un petit voilier avec mon grand-père, j'ai découvert la voile de façon tout à fait humble. Hein. Et finalement, la puissance du vent, la façon dont marche un voilier, c'était très low-tech à l'époque. On n'avait pas de GPS, hein, d'un point de vue même de la météo, c'était pas très pro ce qu'on faisait, hein, loin de là. On allait parfois à l'étrave regarder s'il n'y avait pas des cailloux devant, etc. Et à mes 8, 9, 10 ans, puisque ma grand-mère voulait vendre le voilier et que mon grand-père ne voulait pas, je me suis retrouvé finalement un peu, parfois à naviguer sur ce bateau de façon quasi autonome, en comprenant en tout cas de fait comment ça marchait et à réaliser vraiment, y compris sur un tout petit bateau d'une certaine façon, que border une écoute, ça demande une force énorme et que le vent est là. Il est hyper abondant et on peut l'utiliser, on peut pas le maîtriser, mais on peut faire de son mieux pour que le vent déplace un bateau qui fait plusieurs tonnes et qui va quand même vite. Et alors c'est pas à ce moment-là que j'ai réalisé en 1990 que faire de la voile avait une pertinence dans la transition énergétique, mais c'était là quelque part déjà dans ma vie.
T'avais même pas 8-10 ans en plus là.
Ouais, c'est ça, je suis 82, tu vois, donc j'avais 8-9 ans.
Ok.
Et en même temps, c'était une époque, comme je disais, j'avais dû croiser 2-3 fois de loin, hein, Eric Tabarly, on était finalement assez proche de ce monde, à la fois de la voile de course, dans ces grandes heures où on était, où le yachtisme et les vieux gréements et la voile de course était encore à peu près, n'avait pas complètement divergé, c'était encore à peu près ensemble. Enfin, ce monde de la voile était encore un monde assez commun, alors que ces trois sociologies de la voile ont largement divergé dans le courant des années 90-2000, chacun se spécialisant.
Tu veux dire par là, il y a une certaine technicité qui s'est imposée, ou qu'est-ce que tu entends par ces trois sociologies ?
Je veux dire que Pendwick était un yacht classique et a gagné des courses. Aujourd'hui, on est sur Foyle, on mange du lyophilisé, on coupe le manche de sa brosse à dents quand on part faire le tour du monde avec comme objectif de gagner, de battre le record de 2 heures, quoi, 70 jours plus tard. Le monde de la course large, c'est de la Formule 1. Le monde du yachtisme, donc c'est des bateaux plus gros, plus luxueux, avec un peu une surenchère sur la valeur des navires, etc. Je dis pas une perte de simplicité, mais avec une notion vraiment très marketing autour de, voilà, d'un mode de vie sur le, voilà. Et le monde des voiliers de travail, parce que c'est ça que j'ai évidemment redécouvert et qui fait partie de mon métier actuellement, a clairement été éclipsé et c'est différent. Le vocabulaire à bord est différent, la façon de travailler en équipage est aussi différente, et c'est par contre une façon d'aller en mer à la voile avec un sens. Alors que les deux premiers, d'une certaine façon, que ce soit pour le plaisir ou pour la course, il s'agit d'aller faire un rond dans l'eau, comme on dit à Dornenay, hein. Non mais même si c'est un très grand rond dans l'eau. Bref, mais je suis complètement admiratif de ces gladiateurs des temps modernes, qui vont sur la ligne des icebergs faire le tour du monde et ce qu'ils sont capables de faire. Et ça nous inspire énormément. Aujourd'hui, ça nous est hyper utile. Le routage, les technologies textiles dans les voiles, tout ça, c'est hyper. Et j'adore. Et je dirais peut-être plus tard, mais s'il m'écoute, François Gabart est un vieux copain, et ce qu'il fait est juste incroyable avec tous ses collègues, et cette voile de course, c'est juste absolument bluffant et fabuleux. Nous, on va moins vite et on déplace beaucoup plus d'eau, hein, donc on est beaucoup plus lourd. Donc j'ai eu ça dans ma vie à un moment, puis donc j'ai déménagé dans une zone beaucoup plus continentale entre l'Auvergne et la vallée du Rhône, où durant mes études, moi je me suis intéressé à la fois d'un aspect de formation scientifique, des maths en fait, hein, et à tout ce qui était en train de se passer au moment où on arrivait à Kyoto, et à la notion de mettre une valeur sur les émissions de CO2 et de réguler, si tant est que le marché puisse réguler les émissions, ou de réguler au moins environnementalement les pratiques, puisque c'était bien l'idéal qu'il y avait dans Kyoto. Je passe vite, moi je ferme la fin de mes études en Allemagne, je m'éloigne encore plus de la mer, et alors que j'étais peut-être un peu sur la voie de faire aux fonctionnaires, ou je me rends compte que certainement trop passionné, ou avec trop la volonté d'innover, de faire des choses, le fait de ne pas faire de vagues, de s'inspirer du précédent et de faire carrière n'allait pas vraiment me convenir, et que j'avais certainement besoin.
Ça, en plus, on te l'avait clairement dit. Enfin, c'est pas une idée que tu t'es faite, quoi.
Oui, alors l'année, j'étais stagiaire Sciences Po au CUSULA, où ça s'était très bien passé, à Düsseldorf. Ils étaient très contents de moi. Guillaume, très bien, viens ici. Alors, ouais, on a lu ton rapport, c'est très bien, machin. C'est ton dernier jour, me dit le consul général. Assieds-toi là, ferme la porte. Quelques conseils pour faire carrière dans la fonction publique, mais. Ça n'est écrit nulle part, hein, et c'est non dit. Alors c'est pour ça que je le dis ici, d'ailleurs. Guillaume, surtout, ne fais pas de vagues. Toujours s'inspirer du précédent, toujours copier-coller l'existant, et ne jamais innover. Comme ça, au moins, tu seras toujours bordé, protégé, et jamais on ne pourra te faire de reproches, d'une certaine façon. Ah, merci beaucoup, monsieur le conseil général. Dis toujours non. Hein, quand on te propose, on te demande quelque chose, tu dis non tout de suite. Et ensuite, et peut-être après, si tu y es forcé, réfléchis à voir ce qu'on peut en faire. Je dis, merci pour ces bons conseils. Ah, et si tu les appliques tout le temps, tu feras vraiment carrière et tu iras très loin dans la vie. Passe les concours, bien sûr. Hein, et donc, je me souviens de sortir de ce bureau et de me dire, ah oh non, mais je peux pas. Est-ce que être diplomate ou passer l'ENA est vraiment fait pour moi, là? Ou est-ce que ça me, je vais déprimer, ça va pas aller, je suis pas fait pour ça, je suis inadapté à ce monde-là.
C'est pas moi, quoi.
Et bah du coup j'ai fait un peu la deuxième option et donc je suis sorti de cette voie des concours très tout de suite là en quelques
T'as
mois.
T'as pris tout de suite la pilule rouge ou la pilule bleue, je sais plus quoi.
Ah bah je suis. Alors il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle Le Loup et le Chien où donc un loup rencontre un chien et ça vaut du coup de la relire. Et le dernier vers dit et depuis il court encore. Le loup se rend compte qu'en fait le chien est bien gras, bien nourri, mais à un moment qu'il a un collier quand même et qu'il fait pas. Et donc quand il se rend compte de ça et que donc le chien fait pas ce qu'il veut, le loup s'enfuit en courant. Et donc moi quand je me suis rendu compte de ça, je suis parti en courant et depuis je cours encore. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement c'est une voie difficile hein, de pas choisir la voie qui est un peu tracée. C'est de la faim, du froid, du doute. La famille qui dit qu'est-ce que tu fais, ta vie, etc. C'est du risque énormément, hein. C'est un peu l'angoisse parfois. Hein. Et donc moi je pars à ce moment-là. Donc on est en 2005. Je pars à Londres où je reste 4 ans, où je me suis retrouvé puisqu'il y avait écrit Kyoto sur mon mémoire et que j'avais lu les bouquins de Le Chevalier là sur l'énergie, les batailles du pétrole. Je me retrouve un peu par un concours de circonstances à mettre en place les premiers indices du pricing de la tonne pétrole au desk énergie de Bloomberg. Donc voilà le truc.
Pas mal à 24 ans quand même.
C'était du bricolage. Enfin, c'était trois chiffres dans un truc. Non mais faut pas croire. Hein. Non mais en plus jamais le truc de la finance carbone a effectivement fait de la finance carbone. Hein. C'est si jamais on applique Kyoto un jour, ce qu'on n'a jamais fait, à ce moment-là, le carbone vaudra tant. Non, mais c'était trois chiffres. Voilà, c'était complètement. Bref, et je fais ça donc quand même un peu hyper intense en termes de boulot et tout. Et puis donc moi je rentre. Je voulais pas non plus faire mon trou à Londres, voilà. J'avais besoin de me former. J'avais pas fait. Donc je fais un master donc en développement durable et en énergie, environnement. C'est là donc je rencontre donc Diana Messa qui est aujourd'hui cofondatrice et associée là de l'entreprise alors que j'étais à la cité universitaire à Paris où j'avais lancé un petit journal qui s'appelle Cité Babel et elle commence à me dire que la maquette est nulle et que ça fait pas et qu'il y a énormément de potentiel, c'est super bien mais il faut faire ci ça et que derrière le site doit bien tourner avec un truc en multilingue et qu'on peut faire un partenariat et tout. Et effectivement on fait c'est un journal qui a eu 3 numéros hein
mais toujours disponible sur internet, je viens de vérifier.
Ah oui, alors il y a quelques articles.
Ouais, notamment un très bon article qui aurait pu te correspondre à un moment de ta vie puisque le dernier article c'est pourquoi je veux quitter Paris mais que je ne veux pas partir.
Ouais, par un Canadien. C'est ça ?
Ouais, la version originale est en anglais, donc c'est probable.
Ouais, c'est ça. Oui, alors il y avait, je crois, une lecture de Kropotkin et de l'entraide et de la façon dont comment on allait le mieux survivre face à un monde, voilà, hein, où on a une lecture finalement du darwinisme social qui est très unilatéral et en fait, Homo sapiens sapiens, ce que nous sommes, on est des animaux de l'entraide principalement, donc j'étais très dans ces phases-là moi à l'époque. Alors en Angleterre aussi j'avais retrouvé la voile, j'avais retrouvé la mer, j'avais été naviguer quelques fois, j'avais retrouvé un peu ces sensations hein, plutôt yachty hein, mais bon voilà, et j'avais eu cette idée avec le peu d'argent que j'avais et 2-3 copains, alors d'acheter un ketch en acier de 14 mètres et d'aller faire une transatlantique. Et à l'époque où fleurissaient déjà les labels bio, les Organic Farmers Market à Spitalfield, machin, à Londres, de me dire, on met tout ce qu'on a, on va acheter 3 tonnes de café et avec un torréfacteur, on parle du low carbon coffee. Donc là, c'était un peu, voilà, c'est quelque chose qu'on voulait faire en 2006-2007. Donc évidemment, ça ne s'est jamais fait, c'était complètement naïf. Aller acheter du café, le dédouaner, l'importer, y aller. Donc déjà, l'expédition maritime en elle-même, c'est pas fait. Mais déjà, l'idée fixe était là en moi. Et donc, bien longtemps après, mon stage, j'étais à Marseille, j'étais face au Vieux-Port, et alors qu'on est à 26, 27 ans, un peu dans le doute absolu, existentiel de la vie, qu'est-ce que je vais faire. Et donc j'avoue à Diana que je voulais faire du transport à la voile. un peu la honte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une idée qui me quitte plus du transport. Je me dis, bon, ça y est, quoi. Elle va me dire que c'est une idée de une lubie, de voilà. Et elle me dit, au contraire, mais c'est super. C'est une idée super. Ça peut changer le monde. Il y a énormément de travail à faire. Regardons ce qui se fait, qu'est-ce qui existe. Y a-t-il des labels, des choses comme ça? Et bah effectivement, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et
bon, soit dit en passant, on peut dire que Diana est quand même beaucoup plus qu'une simple collègue, parce que pour t'encourager autant, elle est sacrément balèze, pour l'époque, j'entends.
Oui, non, puis surtout Diana, on en parlait tout à l'heure, mais je crois que je ne l'ai pas dit ici. Diana avait déjà 3 entreprises, elle avait une galerie en ligne avec des artistes sud-américains, elle avait un business dans l'immobilier. Alors Diana, tout de suite, elle me dit, fais une étude de marché comparative, regarde quelles sont les marges possibles, quels sont les coûts que tu aurais, étudie les statuts des entreprises maritimes, et puis quel serait le type de... Et moi, je comprenais rien à tout ça. Enfin, j'ai demandé une entreprise. Enfin, pour moi, c'était Belzébuth. Enfin, c'était... Et je me dis, bon, bah, s'il faut faire du transport là-bas, il faut une entreprise, bon, bah, ok. Mais c'est vrai que pendant même... Moi, au début, je ne savais pas tellement quelle forme forcément ça allait prendre. Ça pouvait être une association ou un truc un peu type fonctionnaire, justement. et donc, non, on fait du transport. C'est là, dès le début, hein, que je comprends qu'on fait du transport maritime à la voile, c'est de la marine marchande, qu'on fait du commerce à la voile, et que ce n'était pas du tout bisounours, que c'était au contraire quelque chose où on allait s'affronter ou du moins se confronter à une réalité qui est celle de l'hyper-efficacité de la flotte mondiale, des dizaines de milliers de cargos qui navigue de façon hyper performante, on peut dire, d'une certaine façon, c'est-à-dire assez rapidement, avec une grande fréquence, absolument gigantesque en termes de capacité, avec aucune contrainte environnementale, avec le fuel lourd qui coûte presque rien et qui est consommé de façon sans limite, avec des normes sociales qui sont clairement nivelées par le bas, avec des armements qui pratiquent on va dire le chantage fiscal ou à la subvention ou au pavillon, etc. Et donc un coût du transport maritime que déjà il faut étudier dès le début, qui est un coût marginal nul, hein. Sur un paquet de café qui vient de Colombie au Havre, aujourd'hui, dans un conteneur de 40 pieds qui charge 30 tonnes de café, il faut savoir que pour les 30 tonnes, ça coûte $500. Ma question est, combien coûte le paquet de café en termes de transport? Donc, ça vaut, on est de l'ordre du centième d'euro. Donc, va te confronter à ça avec une technologie qui n'existe pas, qui est peu fiable, hein, parce qu'on peut pas garantir des heures d'arrivée, qui est lente, qui est peu fréquente et qui a les mêmes risques. Quand on importe une tonne ou 1000 tonnes de café, d'un point de vue douanier ou d'un point de vue vétérinaire ou d'un point de vue, c'est la même chose. Hein. Donc nous, on a le même travail dès le début. Voilà. Donc je travaille moi à ce moment-là de nuit pendant presque 2 ans et donc j'ai café dans le ventre, plusieurs heures d'hyperactivité où je découvre à ce moment-là là, le monde maritime où je me forme là-dessus, contactant tous les voiliers de catégorie A, tous ceux de catégorie B, de catégorie C. Donc c'est les en gros les 5 mâts, 4 mâts, 3 mâts, les goélettes, les briques goélettes, en leur disant nous on veut faire du transport à la voile. Mais quelle idée!
Mais alors attends, juste Guillaume, une petite question par rapport à ça. À l'époque, en 2010, ça représente combien de bateaux Enfin, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée? Parce que quand tu nous parles de 5 mâts, 3, 4 mâts. Il y a pas de transport à voile. Ouais, mais avant même le transport, j'entends. L'existence de ces bateaux, c'est quoi? C'est quelques dizaines? C'est quelques unités? C'est quoi?
Alors non, le monde de la voile traditionnelle, alors que ce soit des grands bateaux pour des cadets des marines nationales ou que ce soit typiquement les Hollandais, Anglais, Allemands qui ont beaucoup de 3, 4, 5 mâts, il y a dans le monde, grosso modo, pour descendre jusqu'aux goélettes, hein, donc des bateaux de 25-30 mètres, il y a dans le monde un millier de bateaux, pour dire les choses à la machette, qui font soit du sail training, hein, donc des jeunes à bord qu'on forme, donc ça c'est une tradition vraiment du pays du Nord, on va dire. Soit de la marine nationale en formation des élèves officiers, etc. Donc tous les pays d'Amérique du Sud ont, par exemple. soit un peu des meubles flottants, comme on dit, hein, soit du patrimoine maritime, des bateaux autour d'associations. Alors ça, c'est le modèle un peu français, où bah, on navigue 2-3 mois par an, on est subventionné par les fonds plutôt patrimoine. Et
les fondations,
on a,
voilà, un truc comme ça.
Ouais. Donc, il existe, ces bateaux-là existent quand même. Moi, je ne connaissais pas du tout, hein, d'ailleurs, ce monde-là à l'époque, et je le découvre en les contactant directement en disant voilà, j'ai 7 palettes de bières bio en Angleterre que je veux livrer à des biocoop de Finistère. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, combien vous voulez? Voilà comment ça se passe. Et puis en 2010, je rencontre Fair Transport, donc une fondation, enfin un armement hollandais, qui a un navire qui s'appelle Tres Hombres, qui fait sa première transatlantique à destination d'Haïti, à l'aller, avec des marchandises pour Haïti, et rentre avec du rhum et un peu de cacao. Et donc, nous, on travaille tout de suite avec eux à distribuer un rhum parce qu'il est transporté à la voile, et du chocolat un peu, donc on n'est pas grand-chose. Et assez rapidement, on développe, y compris avec eux, des routes un peu de cabotage. On se dit, ça peut être intéressant également autour des côtes européennes, Angleterre, la Transmanche, dans un premier temps, hein, ouais. Angleterre, France. Nous, on était en point de Bretagne, on était à Brest à ce moment-là, valoriser un terroir, une origine, par un transport propre qu'on peut documenter et qu'on valorise, non pour son romantisme, mais pour son aspect bas carbone, finalement, une bière anglaise, bio, en 2011-12, ça avait un vrai intérêt commercial, ça marchait bien, on nous les achetait. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, donc l'embryon d'entreprise existe à peine, des clients chargeurs, donc ce qu'on appelle des chargeurs, c'est des clients qui nous confient leurs marchandises, avec un certain nombre de conditions, de contrats de transport. Nous, on n'a aucun chargeur, enfin, je veux dire, les gens rayonnaient, quoi. Je veux dire, du transport à la voile. Non, mais je veux dire, quel intérêt? Pourquoi aller payer plus cher quelque chose qui n'a aucun intérêt? Enfin,
et en plus, qui peut-être est plus long, en plus.
Oui, bien sûr.
Enfin, je veux dire,
sur les voiliers existants, on prend des vitesses moyennes de l'ordre de 4 à 5 nœuds, hein, sur la route directe, hein. Donc, 4 à 5 nœuds, ça fait en gros, voilà, ça fait quand même, on va dire, 4 fois moins vite, 3-4 fois moins vite que le cargo. Sachant qu'on fait une transatlantique par an et qu'on a des taux de fret, donc des coûts de transport. Bon, il y a plein d'approximations là-dedans, hein, mais de l'ordre de 100 fois plus cher que le coût du transport maritime sur cargo, hein, qui, je répète, vaut presque rien, mais nous, on est quand même, voilà. Hein, donc, quel intérêt pour certains chargeurs? Donc, ça demande quand même pas mal de conviction et de crédibilisation de la démarche. Hein, dès le début, donc avec Diana, on est là où on dit non, mais les voiliers existants, parce qu'on parle pas de vieux gréements, hein, on parle de voiliers de travail, on parle de, voilà, les vieux gréements, c'est
oui, on part
ils sont à terre, ils parlent de vieux gréements, hein, ils sont vieux gréements, mais c'est avant tout des voiliers de travail. Pour nous, c'est des voiliers de charge. Évidemment, ce sont des anachronismes. Évidemment, ce sont des espèces de passeurs d'histoire qui viennent d'un autre siècle. Par contre, en 2013, 14, 15, transporter donc de 15, 20, 30, 40 tonnes de produits avec un équipage réduit sur de longues distances, tout à la voile, et de le vendre avec un label qui va dire que c'est transporté à la voile et qui va fournir un numéro de voyage unique à ce voyage-là, qui permettra au client final de trouver le bilan carbone global et unitaire économisé, mais surtout un discours maritime de ce qui s'est passé à bord. On retranscrit les traces GPS, les fichiers météo, on y met des photos et on explique comment les produits viennent à grosso modo 1 euro la bouteille, et lancer quand je parle d'un vin de Bordeaux en Angleterre par exemple, ou en Bretagne, et lancer un embryon, on va dire, de négoce avec un entrepôt, avec les premiers vins bio qui émergent des vignobles atlantiques, que sont le Muscadet, le Bordeaux, le Douro, hein, pour le Porto, enfin à Porto le vin de Douro, des cafés cacao, donc des Républiques dominicaines, de Colombie, Mexique, du rhum de Guadeloupe, on pense que ça permet de créer un peu une graine, de créer un peu un logiciel qui sera applicable à autre chose. Par contre, dès le début, on dit qu'on a cette dignité de le faire parce qu'on est des faiseux et que on n'est pas uniquement dans la conceptualisation du truc. Mmh. Et on dit que ces bateaux-là, dire que ce sont ceux qui permettront la révolution énergétique et écologique du transport maritime au XXIe siècle, personne n'y croit. Par contre, ils permettent d'être un premier levier qui permet d'aller vers les voiliers cargo. Les voiliers cargo, dès 2013-14, on se rend compte que c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse grâce à l'expérience qu'on acquiert au fil des années. Aller sur des navires de plus de 100 mètres, recopier le gigantisme et donc risquer financièrement, technologiquement, une sorte d'Everest absolu et un grand écart énorme entre des bateaux qui ont 30, 40, 50, 80 tonnes de capacité et plusieurs milliers de tonnes, 4, 7, 8 000, 20 000. Concept de navire qui s'appelait Ecoliner à l'époque de Dijkstra Naval Architects. On se dit que l'écart est énorme et qu'en fait c'est la meilleure façon d'attendre Godot et la révolution dans les transports à la voile, et pendant ce temps-là il se passera rien, et la marine marchande conventionnelle qui n'a aucun intérêt à faire évoluer quoi que ce soit et qui par définition conservatrice dans ses pratiques a les coups des franches, et puis nous on va pas les challenger commercialement. Peut-être un petit mot sur justement les cargos. Il y en a, ça dépend ce qu'on y met, mais on est grosso modo 50 000 porte-conteneurs sur les océans. Ils émettent…
Là, tu veux dire il y a 10 ans ou aujourd'hui, ou la situation n'est pas sauvée, c'est la même ouais.
Il y en a en tout 100 000 bateaux sur l'eau. Et donc, il y a de la pêche, il y a des tankers, il y a du passager, et il y a du porte-conteneur. On est de l'ordre de 40 000, 50 000 bateaux. C'est à la louche, mais ça donne un ordre d'idée. Ça veut dire que, par exemple, du port du Havre vers New York, il y a un à deux départs par jour. Donc, c'est quand même hyper fréquent. Et des bateaux qui transportent 10 000, 15 000, 20 000 conteneurs. Incroyable. Donc, un conteneur, ça fait 40 pieds. Donc, 40 pieds, c'est la taille d'un petit appartement à Paris. Je veux dire, c'est énorme. Donc, c'est des centaines de milliers de tonnes.
Un petit immeuble?
Un conteneur,
le conteneur, oui, pas le bateau.
C'est 90% des produits qu'on consomme. C'est évidemment non pas le symbole, mais le vecteur de l'exportation du travail et donc de l'importation, on va dire, d'une certaine forme de chômage, mais du fait qu'on clairement, les lieux de production et de consommation sont extrêmement éloignés au service d'une financiarisation des échanges mondiaux. Et si le transport maritime n'était pas aussi efficace, l'économie mondiale, et donc du coup, j'allais dire même notre structuration sociale, ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. C'est 3% des émissions. Alors que 3% des émissions mondiales, lui, il parle, mais 3% des émissions mondiales, vaut mieux isoler le logement. Mais oui, il faut isoler le logement, bien sûr. Mais l'avantage, c'est qu'on peut isoler le logement, décarboné de façon sérieuse, quand on parle en sciences physiques, je dis de façon sérieuse parce que il y a plein de, j'en dirai pas plus, mais il y a plein d'affichages ou de postures qui parlent de décarbonation, de transition éco-énergétique dans le transport maritime, qui ne sont que des
trucs à la marge,
des grands de fumée. Du greenwashing, mon souhait, où rien ne se passe et on met plein de peintures vertes. On constate tout simplement qu'un navire, puisque Eric Tabarly nous le disait, la mer a toujours raison, la mer ne ment pas, mettre de l'énergie renouvelable sur un navire de façon un peu sérieuse, en gros un navire de charge, donc qui déplace des milliers de tonnes d'eau, on peut pas lui brancher un câble et une éolienne, ça marche pas comme ça, et on est extrêmement dépendant des énergies fossiles, on peut pas, on est décorrélé, le transport maritime et véritablement le décarboner, c'est pas du tout envisageable, a fortiori en 2010, mais même maintenant, de façon aussi industrialisée qu'on le fait. On est sur quelque chose qui nécessite une énorme intensivité énergétique, et l'alpha et l'oméga, c'est les hydrocarbures. Je dis ça parce que Hein, le bunker fuel, donc le fuel lourd qui continue d'être 99,9% des carburants mondiaux. On vend la panacée du gaz naturel liquéfié qui est d'ailleurs un pis-aller qui fait des fuites de méthane et le méthane réchauffe l'atmosphère encore plus que le pétrole lui-même, donc bravo. C'est l'alpha et l'oméga de déplacer aujourd'hui une carène sur l'eau. Donc déjà nous on s'adresse à ces émissions maritimes qui ont lieu en plus en haute mer, qui souvent n'ont pas de statut juridique très clair, mais c'est ça que on veut fournir, des perspectives d'une transition énergétique qui soit sérieuse mais qui permette d'envisager un monde bas pétrole, bas carbone, où boire du café, manger du chocolat est tout à fait possible, heureux et normal d'une certaine façon, et pas du tout dans une vision de l'effondrement machin. On peut transporter des passagers, on peut exporter des confitures françaises, des cognacs, du champagne importé, du sirop d'agave, des sirops d'érable, importer sur des navires qui vont à 10-12 nœuds, donc qui vont vite, qui vont uniquement par la force du vent avec un nombre assez réduit de marins, et c'est ça que qu'on veut prouver dès le début.
Attends, juste pour les non-initiés, 10-12 nœuds, ça fait quoi? C'est 20-25 km/h?
Ouais, c'est ouais, 20 km/h, ouais.
Et alors, juste pour rebondir aussi sur tout à l'heure ce que tu disais, alors effectivement, c'est seulement 3% des gaz à effet de serre au niveau mondial, mais en fait, ces 3%-là, et tu l'as évoqué avec tout le lien sur le pétrole, c'est aussi, enfin, ce mode de transport maritime avec tous les hydrocarbures, ça a aussi des conséquences sur tout le reste, c'est-à-dire sur nos modes de consommation, sur nos modes de production, etc., etc. Donc finalement, c'est si on faisait toute l'addition véritable qu'a permis ce transport maritime avec tous ces hydrocarbures, ce serait nettement plus finalement. Enfin, on est complètement dans la déraison, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est l'outil des relations Nord-Sud qui je pense n'ont pas fait leur transition non plus, j'allais dire sociale depuis le 19e siècle, parce que le transport maritime est là aussi pour les relier directement au Nord dans la stratégie de prédation qu'a le Nord, grosso modo, sur les richesses du Sud. Et il est dans l'hyperliquidité des ressources mondiales, donc des biens qui ont le même prix à tout point du globe tel qu'on les imagine. Donc, la grande marchandisation du monde. Ça, c'est le transport maritime. Nous, on s'adresse de façon assez… Alors, puisque je le disais dès le début, nous, on ne fait pas ni un parti politique, ni une association, ni… on porte finalement… Il n'y a pas de militance dans ce qu'on fait. Il n'y a qu'une action, il n'y a qu'une des expéditions maritimes, il n'y a qu'une… de l'affrètement, de l'armement, il n'y a que du transport maritime. Donc, positivement, nous, on propose des routes qui sont marginales, infinitésimales, mais voilà. Dire que… tu ne connais pas la personne qui a confectionné ta chemise, et que ça, c'est certainement le transport maritime. C'est pas quelque chose que nous on dit directement, du moins ça fait pas partie de notre discours commercial. Dire que tout vient de loin et que on perd même la capacité à avoir une préférence pour certains types de produits, parce que tout est complètement anonymisé, on peut pas savoir par quel bateau ça vient, d'où ça vient, etc. Et donc, tout ça fait le jeu, finalement, de cette standardisation des modes de consommation et de cette incapacité des consommateurs à choisir quelque chose qui, par exemple, serait plus sobre ou, par exemple, il y a des projets de ralentir les flottes mondiales. Donc, ça, c'est super intéressant parce que si on ralentit la flotte mondiale qui va, grosso modo, à 20 nœuds aujourd'hui, si on met tous les bateaux à 10 nœuds, eh ben, on baisse déjà de 20% les émissions, 30%, 35% les émissions mondiales. Et on pourrait dire, par exemple, qu'il existe un label, peu importe, d'habits, qui serait applicable sur tous les produits, qui dit, ce produit a été transporté sur un bateau slow steaming, qui ralentit. Évidemment, la structuration même, avec donc les transitaires, les freight forwarders, les armateurs mondiaux, et le fait que cette chemise que tu as sur les épaules, non seulement tu ne sais pas qui l'a faite, mais par quel bateau elle est venue de Chine, le cas échéant, et par quelle compagnie maritime, par quel type de marin, etc. Donc en fait, tu es pourtant le payeur final de ce transport maritime. Tu pourrais demander à avoir cette information qui t'est confisquée d'une certaine façon. Oui. Donc nous, on arrive avec rien, pas de techno, pas de clients, face à un existant qui est hyper installé, tout puissant, relativement...
Qui peut même pas être mis en question en l'état. Enfin...
Les eaux internationales dépendent de la convention de Montego Bay, donc en gros, ça se passe à l'OMI à Londres, donc en gros, il n'y a personne qui régule tout ça. C'est le pavillon, l'état du pavillon qui régule les armements maritimes, donc en gros c'est le Panama et le Liberia et voilà ce genre d'état-là qui définit les pratiques sociales, environnementales, sécurité des navires. Et nous on dit bah il faut chinter en fait tout ça, partir avec nos grands voiliers et vendre des produits. Hein, c'est d'où l'idée nous de, on est prêt à tout hein, de toute façon, on est prêt à tout y compris à aller acheter et vendre des produits parce que ce sont de très bons et beaux produits et parce qu'ils sont venus à la voile. C'est comme ça qu'on développe. Oui,
j'ajouterais aussi un dernier truc sur les choix des produits. C'est tous les produits que tu as évoqués, ils ne peuvent pas être délocalisés. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas ramener justement des chemises de Chine. Enfin, quand tu parles du sirop d'érable, non. Quand tu parles du rhum, etc., c'est parce qu'en en fait, il y a une certaine unicité du produit et c'est un produit qui ne peut pas être délocalisé finalement. Enfin, en termes de production.
Qui parlent d'une origine.
Ouais, tout à fait.
Ce sont des produits qui définissent un terroir. Ouais. Et effectivement, on ne peut pas faire pousser de café ou de cacao sous nos latitudes. Et par définition, de très beaux chocolats ou cafés, il y a une sorte de chaînon manquant. J'ai hâte de parler de Belco ou de ces mois là actuellement avec lesquels on travaille sur le développement des voiliers du futur. Ils sont très contents de pouvoir justement avoir cet aspect décarboné dans le maritime parce qu'ils savent très bien que quoi qu'il arrive dans les années qui viennent, il y aura le café ne sera pas fait en France ni ni le chocolat ni le cacao. Donc on est dans la possibilité d'ouvrir une liaison décarbonée avec des produits qu'au début, nous, on est amené à choisir parce qu'on pense qu'il y a une opportunité commerciale à le faire, mais parce que ce sont des produits qui disent une origine, bien sûr. Hein, et on ne fait ni chemise, produits à basse valeur ajoutée. On ne fait pas de... L'oxyde d'aluminium par million de tonnes se transporte assez mal à la voile. mais pour des raisons simplement économiques, hein, je veux dire... on ne fait pas du transport industriel jusqu'à présent à la voile. Donc, le fait d'aller acheter des lots de cacao, de café, de rhum, de développer à la fois ce discours qui est très repris médiatiquement, hein, les médias adorent ça, ça donne espoir, etc. Et le fait de vendre des produits, on commence à avoir des premiers clients et donc on transporte pour le compte d'importateurs anglais, danois, des vins depuis les zones de production, soit la France, soit Madère. Donc, Madère, c'est parfait pour nous parce que c'est une île, ça nous va parfaitement maritimement ou depuis le Portugal. Pour le compte de Biocoop, on livre des dizaines de milliers de bouteilles de vin, on livre des dizaines de tonnes de café. Donc ça commence on commence à avoir vraiment des volumes assez importants sur ces voiliers-là et on commence à trouver les taux de fret, l'équilibre, la nécessité du label. Et donc, on crée donc de ces labels qui étaient une description générale jusqu'alors, en 2017, un label qui s'appelle Anemos, hein, du nom grec du dieu des vents porteurs. Mmh. Et on continue de fournir un numéro de voyage qui est immersif de plus en plus, donc on essaie de s'améliorer à chaque fois. Si vous achetez du café sur notre site, là, vous trouverez un numéro de voyage sur le paquet de café qui vous emmènera à Santa Marta avec les dockers, qui vous emmènera dans la coopérative à la récolte du café, puis sur le port de Santa Marta à quelques kilomètres de là, à charger le café à bord du navire, le Galante, et vous fera suivre sa trace GPS, la météo qu'il a eue à tel instant, comment il est sorti de la mer Caraïbe, pour remonter au-dessus des Bermudes, puis les Açores, en profitant des systèmes d'Atlantique Nord, et on se retrouve au Havre, où on le décharge et on montre comment on l'a fait. Un indice carbone global par rapport à la consommation du moteur du voilier, et donc par rapport à l'existant, vous est fourni, ainsi que par paquet de café. Il y a 88 grammes de CO2 économisés par paquet de café grâce à ce transport à la voile. Donc on commence à structurer le discours B2C, hein, vers le client final pour lui montrer cette valeur-là, cette option-là, pour forcer son enfin l'entreprise
fournisseuse
clients, pour forcer nos clients à venir charger des produits parce qu'ils ont beaucoup plus la capacité à le faire. Tout en développant en parallèle, hein, donc 2015 à 2017, on développe la notion d'un navire de 60 mètres pour 1000 tonnes de capacité, 10 nœuds de vitesse moyenne sur la ligne droite. Et pour un budget le plus faible possible, on envisage une dizaine de millions d'euros pour la construction d'un navire, ce qui implique des choix de coques acier, mâts acier, des voiles dont les technologies existantes nous permettent d'utiliser, de construire, de gréer, 12 passagers et des systèmes de chargement efficaces pour qu'il n'y ait pas de poste de surcoût dans l'amont et dans l'aval du transport.
Alors attends, justement, parce que là, ça c'est quand même une grosse étape pour Taut. Donc, je me permets de faire une petite interruption pour dire, ben voilà, en gros, depuis 2011, depuis la création de Taut, vous avez transporté environ 1000 tonnes de marchandises. Ce qui est quand même pas rien, même si évidemment, comme tu le dis, c'est marginal par rapport à tous les échanges de marchandises via transport maritime. Et là, cet appel d'offres que vous venez de lancer en août, pour 4 voiliers cargo, ils seront tous en mesure de transporter tous 1000 tonnes chacun, c'est ça?
C'est ça, à peu près, ouais. Sachant qu'on reste 200 à 300 fois plus petit qu'un porte-conteneur.
Oui, oui, alors vous marchez sans pétrole, c'est quand même fou.
ouais, bah que représente une ferme bio face à une méga ferme céréalière, voilà. Que représente des éoliennes par rapport à une centrale nucléaire? Quels sont les rapports d'échelle?
Ouais, tout à fait.
On est dans des rapports d'échelle ou encore plus grands, en fait.
Mais, ouais.
On est encore plus petit dans ce rapport d'échelle. Si, alors pour schématiser, donc soit on fait du petit cabotage, hein, du Bordeaux-Douarnenez ou du Nantes-Saint-Malo, Plymouth, ou des, voilà, avec des vins principalement ou du thé, soit on fait du grand cabotage. Donc je parlais des Açores, non je parlais pas des Açores, mais je parlais de Madère, mais on a des Açores, mais on importe des Açores, le Portugal, vers la Scandinavie, qu'on pourrait une sorte de cabotage européen, un grand cabotage, ou la transatlantique, que ce soit pour compte propre, pour compte de tiers, si on ajoute tout, donc ça peut être quelques centaines de milles ou des milliers de milles parcourus à la voile, donc c'est pas la même chose, mais si on ajoute tout, pour donner un chiffre grosso modo rond, on a environ transporté 1 millier de tonnes depuis qu'on existe, donc à la force du dos, hein, et de la sueur évidemment des marins et de leur savoir-faire. Bon, voilà, c'est un chiffre qui est un, c'est ce qui se transporte, c'est ce qui se transborde en 30 secondes au port du Havre. On parle de milliards de tonnes de marchandises qui sont transportées annuellement, je sais même pas combien, enfin je veux dire, c'est donc c'est véritablement la goutte d'eau dans l'océan. Par contre, on est digne, on l'a fait, ces marchandises ont été transportées, elles ont économisé leur carbone, elles ont trouvé leurs consommateurs, et on n'est pas dans des allégations commerciales plus ou moins infondées ou pseudo mensongères. On fait vraiment, et puis d'une certaine façon, on respecte aussi ces voiliers existants et on essaie de leur fournir ce qui, à mon avis, est la meilleure façon de les honorer, une descendance de voile de travail. Et donc oui, alors après, ce choix d'un navire de 1000 tonnes de capacité, ça reste un très petit navire. Il faut comprendre ça, qu'un navire de 65 mètres, à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très déphasé par rapport au gigantisme des porte-conteneurs modernes.
Par contre, d'ailleurs, attends, juste Guillaume, je me permets, c'est 11 milliards de tonnes le fret maritime mondial annuel. 11 milliards de tonnes.
Oui, mais on y met le dry, le bulk, les tankers et tout ça. Ah, bah, ça dépend à quoi on se compare. Si on est sur du conteneur, je crois qu'il y en a 3 ou 4.
Non, j'ai que ce chiffre sur le global, moi. Mais tu
parce
veux...
que le tonnage le plus important à transporter, c'est grosso modo le pétrole et le gaz.
Ok, évidemment.
Et le dry, c'est-à-dire en gros les céréales. Donc, ce qui est vachement rassurant. Enfin, ce qui est... donc voilà. Par contre, avec ce projet, alors nous on développe ça, l'ADEME, que je salue, nous soutient un peu dans un premier projet de R&D. On rencontre nos architectes, on a un avant-projet, on a des plans. Et Le 15 novembre 2017, il y a notre maison, notre entrepôt, il y a tout qui brûle chez nous. En plus, on n'est pas très bien assuré. Donc, en gros, on a le ciel qui nous tombe sur la tête. On ne sait pas du tout, on sait plus où on habite, littéralement. Et donc, pendant quelques mois…
Mais il y avait des marchandises et tout, ou c'était juste…
Ah oui, mais on était en novembre, on venait de remplir l'entrepôt de marchandises. Non, horrible, horrible. Et d'ailleurs, l'enquête est pas finie. Enfin, on apprend des trucs en plus.
Bref, ah oui, tu penses que c'est pas dû au hasard. Enfin, si l'enquête est en cours, j'imagine que voilà, mais
oui, voilà,
mais
on en parlera en off.
D'accord, mais bon, on peut émettre l'idée.
Ouais, bah voilà. Donc, il y a cette notion aussi de forger. Du phénix là ou de la salamandre hein, de forger cette force morale qu'on avait hein, on est un peu des fous hein, nous on est on mange du pain noir depuis longtemps hein, on sait très bien que la dignité vient de l'effort et de la capacité à ne pas mentir et à faire véritablement les choses, mais en même temps travailler sur des vieux gréments sans allumer le moteur c'est quelque chose qui est quand même hyper exigeant et qui est pas du tout rétributeur. Enfin, je veux dire, on est. Donc, mais par contre, d'être là, le deuxième étage de fusée, les voiliers cargo, hein, je pense que c'est aussi un moment dans cette espèce d'événement à la fois personnel, énorme et professionnel, complètement ébranlant, qu'on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on le fasse. Hein, là, il n'y a pas le choix. Alors, on avait le choix soit de tout arrêter en fait hein, de dire non mais là il y a un signe, soit on se dit au contraire là il y a quelque chose et continuer. Alors on a frété nous 18 voiliers existants, donc on connaît quand même bien hein, les différents voiliers de l'école, on va dire hollandaise, allemande, anglaise, de l'école bretonne, et on est très fiers de ça. Par contre, on se rend bien compte que transporter 3 palettes par-ci, 15 palettes par-là, et d'avoir un article dans le Télégramme, enfin, c'est super, et ça fait partie de ce qu'on fait, mais c'est très fatigant, et ça nous, les journées ne font que 24 heures, donc il faut qu'on se concentre sur le voilier cargo.
Ouais.
Donc, on arrive à lever des fonds dans l'année qui a suivi ça. On arrive du coup à changer d'échelle, à valider les plans et du coup les taux de fret qu'on peut permettre de faire autour de routes qui sont aujourd'hui l'aller-retour en direct depuis la France métropolitaine, a priori du Havre, sur New York-Québec, 4 fois par an par navire, sur Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, 4 fois par an par navire, avec donc derrière, juste derrière, Colombie, Mexique, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, sur les cafés cacao, grosso modo, ou agave notamment, ainsi que Santos au Brésil et l'Éthiopie sur du café également. Donc on arrive à valoriser des taux de fret qui ne se comptent plus en plusieurs euros par kilo, tel que c'est aujourd'hui en transatlantique, mais en quelques dizaines de centimes d'euros par kilo. Et au lieu d'être juste en train de parler de 6 caisses de vin à la Biocoop, bref.
C'est de donner.
Par exemple, ouais. On est en train de parler à des groupes qui sont d'une autre taille et qui s'envisagent eux-mêmes dans une pérennisation de leur activité. Ce sont généralement des entreprises familiales, très grandes, hein, enfin plus ou moins grandes, mais qui s'envisagent dans un long terme, qui se posent des questions à la fois sur leur impact carbone et qui veulent de façon hyper tangible et réelle le réduire, mais qui cherchent aussi à valoriser une origine, hein, parce que quand je dis agave, érable, chacun comprend Mexique, Québec, mais quand je dis champagne, chacun sait en français que c'est le champagne et la champagne, c'est pas si évident que ça aux États-Unis, par exemple. C'est une façon aussi de souligner, de même que le cognac, c'est un spiritueux, mais c'est également une ville et puis une zone de production du cognac. Le Bordeaux, hein, c'est une ville et c'est donc, c'est ce qu'on connaît mieux en tant que Français quand on veut parler de terroir, mais dans les cosmétiques aussi, il y a des terroirs dans dans les confiseries ou les confitures aussi, il y a des terroirs. Évidemment, alors en plus, il y a tout un phénomène de valorisation de grandes origines sur les cafés, notamment. Hein. Oui. Aujourd'hui, on boit un Colombie, on boit un Mexique. Et d'ailleurs, en Colombie, il y a 15 origines en Colombie. On boit un Santa Marta de Colombie. On oui. boit un Tabasco du Mexique. Et c'est très important pour des torréfacteurs et donc des sourceurs de café de grande qualité de pouvoir valoriser cette origine-là. Donc, je parle de C'est Moi qui va nous fournir toute sa gamme Transparence Cacao au départ d'Abidjan, où il y a un travail extraordinaire qui est fait.
Là pour C'est Moi, c'est combien de tonnes de cacao ?
Alors, C'est Moi, ils nous remplissent. Donc, c'est bien d'avoir un bateau de 1000 tonnes. Parce que il prendrait plus s'il y avait plus. Deux fois en 2022, quatre fois en 2023, huit fois en 2024 et 12 en 2025. Donc, c'est aussi pour Incroyable. Ce type de chargeur-là qu'il faut construire plusieurs navires. Mmh. Ça nous permet d'avoir une fréquence, de répondre aux saisons, de récolte, hein. Ça nous permet de répondre aux saisons même de commerciales. Il faut pouvoir, avec une certaine fréquence, livrer à certains moments. Et en même temps, c'est intéressant de parler de flux et non pas de one shot, de faire waouh plein. Regardez.
Cette notion de flux, c'est que cette lenteur finalement choisie, c'est que en fait, t'arrives à te réharmoniser avec les cycles des saisons, enfin les cycles naturels.
Et on se rend compte que ça marche très bien.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il y a un vent qui s'appelle l'Alizé, qui est établi grosso modo au 10e parallèle nord, donc vers les Canaries, la Mauritanie, là, jusqu'aux Antilles, qui souffle entre fin octobre et le mois de mai. Et c'est à partir du mois de novembre qu'on commence à récolter les cafés en Colombie. Donc c'est parfait de prendre cette espèce d'autoroute du vent à un moment où juste on va pouvoir arriver au début de la récolte. C'est aussi un moment où on n'aime pas trop aller en Atlantique Nord parce qu'il y a beaucoup de tempêtes, etc. Et donc on n'y va pas. Et au moment où il y a les cyclones et où il n'y a plus l'Alizé pour aller sur la mer Caraïbe, les Antilles, c'est avril, septembre où là on a justement des fenêtres idéal pour aller sur l'Amérique du Nord. Donc c'est à ce moment-là qu'on y va et ça tombe bien. C'est là où ils restockent notamment les vins spiritueux et certains produits là dont on parle à cette saison-là. La récolte, pardon. Et on va entre septembre et février en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un vent de nord-est au niveau du golfe de Guinée qui nous permet d'y aller au travers et donc de faire vraiment de la voile et assez vite. Et en même temps, le cacao commence à être. Enfin, ouais, il y a une sorte de concomitance assez naturelle entre. C'est comme si c'était fait exprès. Enfin, c'est peut-être fait exprès d'ailleurs. On devient mystique. Mais il y a quelque chose qui, entre les vents dominants, saisons agricoles, si je veux dire, et les saisons commerciales, qui se goupillent très bien, nous, actuellement. On se rend compte que, ah tiens, comme par hasard, et donc on arrive à bien remplir les navires en fonction des plannings qu'on a. Donc juste par exemple sur alors quand on va parler d'un chocolat de Côte d'Ivoire au cacao de Côte d'Ivoire, les gens se disent pouf. Enfin ça fait pas rêver, c'est ce que je veux dire. C'est pas parce que c'est le premier producteur mondial, c'est 70% je crois ou mais en fait, il y a des cacaos de Côte d'Ivoire qui sont hyper qualitatifs, qui ont des démarches de dingue en termes de cépage, en termes de terroir parce qu'on parle aussi de cépage et de terroir en cacao par exemple. De traitement post-récolte, parce que il y a les précurseurs d'arômes qui viennent d'une pré-fermentation qui est faite avant le séchage, etc. Des projets qui éminemment doivent être faits en respectant les hommes et les femmes, donc avec localement, enfin c'est le programme Transparence Cacao de C'est Moi. Donc il y a vraiment l'aspect social, environnemental, gustatif qui est mis en avant. Et on a également une convention avec avec une école de marine marchande d'Abidjan pour avoir des marins ivoiriens à notre bord. Donc on est dans une démarche où en fait on au lieu d'avoir des marins du Nord qui viennent charger les produits du Sud, on a en fait des marins du Sud qui apportent les produits. Donc de même que tout le monde a quelqu'un dans le vin en Gironde, dans sa famille, tout le monde a quelqu'un dans le cacao en Côte d'Ivoire. Donc, d'une certaine façon, ils apportent leurs produits et se forment à bord et donc gagnent en compétences, en professionnels, comme on appelle ça, en employabilité et tout ça. Et donc on a aussi cette volonté d'embarquer. Alors on a deux accords avec l'école d'Abidjan et de Santa Marta Bogota où on prend à chaque fois qu'on est sur les routes, tantôt du cacao, tantôt du café, d'avoir 2 à 3 élèves stagiaires qui sont issus du pays en fait. Hein,
excellent.
Et donc c'est important pour nous. On a sciemment mis des bannettes, c'est des couchettes à bord. On a plus de couchettes que le rôle, c'est-à-dire le nombre de marins minimum pour faire marcher le bateau, pour avoir un peu en permanence des marins. Voilà, l'idée c'est pas que d'aller avec, grosso modo, des marins français dans les pays du Sud, aller prendre le meilleur de leurs produits et revenir très fiers de nous. C'est
il y a aussi une dimension aussi de partage des savoirs.
Mais c'est aussi revenir avec des, voilà, apprendre à avoir des marins qui nous disent mais moi, le cacao, je le fais pousser. Voilà, mon père a une plantation. Enfin, d'avoir des gens qui, voilà. Et un peu changer cet aspect-là. Donc, je pense que la voile, évidemment. Hein, alors, juste un petit aspect physique, technique, météorologique. On ne fait pas de la voile par romantisme ou par volonté de faire de la voile. Oh là là, quelle bonne idée. Le vent au large est une énergie qui est extrêmement abondante, extrêmement puissante. C'est toujours le cas. C'est la seule. Hein. Elle est aujourd'hui, en outre, extrêmement prédictible. On sait très très bien router des navires, quel que soit leur ce qu'on appelle leur polaire, donc en gros leur surface de toile et leur déplacement, le poids du navire et leur capacité à dériver ou pas. Une voile, alors après on pourrait dire ouais mais les voiles, on pourrait mettre une éolienne sur le bateau et que l'éolienne enclenche un système avec une hélice derrière. Non, ça on aurait des rendements de l'ordre de 0,1 multiplié par 0,1, ou chose comme ça, une unité de vent. Donc en gros, le bateau, il n'avancera pas du tout, et puis il va finir à la côte. Sur une unité de vent qui arrive sur un bateau à voile, la voile qui fonctionne tantôt comme une aile, tantôt comme un parachute, hein, en fonction que ce soit au près ou au portant, enfin chacun comprend, enfin voit le truc, on peut récupérer 0,6, 0,7 de cette unité de vent. Donc ça permet d'aller très vite, ça permet de retransmettre cette énergie de façon directe et sans système, donc qui ont des pertes de rendement, hein. Par définition, un moteur ne un rendement de 0,4, enfin je veux dire une batterie a un rendement, voilà, donc ça veut dire qu'on perd de l'énergie évidemment à chaque fois. Nous, d'avoir des grandes voiles, donc là sur le voilier cargo, on déplace 2500 tonnes en tout quand on est chargé, quand on dit on déplace, c'est qu'on pèse, hein, c'est Archimède en fait, quand on pèse une tonne et qu'on flotte, on déplace une tonne d'eau. On déplace 2500 tonnes et on a 4000 mètres carrés de voile. On a 7 marins professionnels à bord avec des systèmes d'automatisme de gréement, etc. Donc on se rend compte qu'on est sur un bateau qui est hyper toilé, qui est hyper puissant et qui a une vraie capacité à aller très vite. On va beaucoup plus vite que 10 nœuds. Hein. Si on parle de 10 nœuds, c'est parce que c'est une 10 nœuds et demi d'ailleurs. C'est la vitesse commerciale moyenne qu'on garantit aux clients sur la ligne droite. Hein. On ne va pas tout le temps en ligne droite non plus parce qu'on tire des bords. Enfin bref. On a une vitesse qu'on appelle critique de carène de près de 20 nœuds. Hein. C'est un bateau qui peut. Donc 20 nœuds, ça va vite quand même. Hein.
Yeah, c'est clair.
20 nœuds avec 1000 palettes à bord et d'ailleurs 120 barriques. Enfin, juste un petit détail. Juste en deux phrases.
Bien sûr, vas-y.
Dès le début, puisqu'on a donc une activité tangible avec des bateaux, on nous a demandé de charger des barriques et des fûts, des tonneaux, à la fois pour transporter du vrac en alcool et aussi pour le faire vieillir dans un vieillissement dynamique. Mmh. Et donc, on a une cale avant sur le navire qui était, en termes d'aménagement, pas très facile à remplir. Et donc, on la valorise et on peut mettre, sur voilier cargo, on met 1000 palettes euros équivalent, donc d'une tonne chacune, et on met 130 barriques de 225 litres. Hein.
Mmh. Incroyable.
Donc aujourd'hui on a pu et on est ravis charger les origines Colombie, Mexique, Amérique centrale, Brésil et Éthiopie pour Belco, qui est une magnifique entreprise basée à Mérignac et d'origine havraise, qui est donc un sourceur véritablement de café de haute qualité d'origine, dans une démarche de qui est mieux disante d'un point de vue social et environnemental. Ouais. On a ces mois.
Juste sur cette entreprise-là, tu as évoqué l'Éthiopie, donc vous projetez même de passer par le canal de Suez ou
Exactement.
Ok. Excellent.
Et derrière, la mer Rouge.
Ok, avec là aussi d'autres idées de marchandises précises ou...
Bon,
mis à part le café avec l'Éthiopie. Oui, d'accord.
On remplit le bateau au retour. Par contre, à l'aller, on a des petites idées, ouais.
Ok.
Mais ça, c'est au stade d'idées pour l'instant. Hein, mais on sait qu'à Djibouti, il y a plein de gens et donc ils ont besoin de plein de choses. Donc, on réfléchit à ça, là. Et d'ailleurs, on est en train aussi d'ouvrir les pilot charts, là, les différentes analyses statistiques météo en mer Rouge, parce qu'il y a plein de vent en mer Rouge. Si des auditeurs connaissent Henri de Montfred, dont je conseille vraiment la lecture, il y a beaucoup navigué en mer Rouge, et nous, on veut utiliser ce vent, un vent du désert, en fait, qui est souvent un vent de travers, qui est très puissant, en fait, et qui permet d'aller vite en mer Rouge. Donc voilà.
Et pour ceux qui veulent envoyer des marchandises à Djibouti ou en Éthiopie, ils peuvent te contacter.
Tout à fait. T-O-W-T, Tango, Oscar, Whisky, Tango. N'hésitez pas, on vous trouvera.
Une bonne place.
@owt.eu. Non, je ne fais pas ma pub.
Non, mais t'inquiète, on le mettra dans l'article. Et ok, mais excellent. Alors, tu viens d'évoquer cette entreprise.
On a lancé l'appel d'offres, chantier.
Ouais.
Là, on a finalisé ce qu'on appelle les specs, hein, donc le cahier des charges, les plans, etc. Et on fait appel à 6 chantiers européens à qui on demande de renvoyer leurs propositions à la fin du mois. Donc là, je prends du temps pour le podcast, mais je ne dors pas la nuit. Non, c'est vrai qu'on est occupé en ce moment. Donc, je parlais de Belco, c'est moi, Ethic Drinks sur l'exportation de vin, Longto, les rhums Longto, ça c'est intéressant, de Guadeloupe, on va ramener tout leur rhum à la voile.
Excellent.
Et en plus, on va leur exporter de métropole tout ce dont ils ont besoin là-bas, parce qu'ils sont aussi un peu sous perfusion de produits, donc les bouteilles, les bouchons, les emballages, etc. Donc,
ah oui, tu dis tout ce qui est lié à leur conditionnement, quoi.
Ouais. Il y a vraiment une démarche logistique pure, quoi, hein, qui lie justement dans les outre-mer, enfin la métropole à ses outre-mer. Hein,
et bah, question voilà. Idiote dans cet exemple-là, mais une fois que vous avez ramené les bouchons, les bouteilles, etc., le bateau reste sur place le temps que tout soit conditionné.
Non, on charge d'autres choses qui ont été remplies un mois plus tôt.
D'accord, ok.
Non, on n'attend pas qu'ils remplissent ces bouteilles, les bouches, les
questions naïves.
On attend Georges qui arrive, mais parce que sa femme est enceinte, il n'a pas donné un.
Voilà. Bon, j'imagine qu'il y a des
erreurs. Non, on décharge en charge et on se casse. Hein. Non. On est...
Ok, très
bien. L'escale doit durer le moins longtemps possible. Hein. Donc, ça roule. Hein. On chargera certainement des bouteilles pleines qui auront été livrées, quelques semaines, mois avant. Voilà, il fait son truc dans son timing et nous, le nôtre. Hein. Mais c'est une bonne question.
Oui, question naïve, je le conçois.
Donc ça, c'est ce dont je parle là publiquement. On est également encore avec des entreprises vraiment qui savent décider, qui ont une colonne vertébrale sur des exports de produits finalement très français dans les vins, dans les spiritueux, mais pas que. On est à l'import, dans les cosmétiques, on est à l'import, à l'entrée sur le territoire sur... Donc je parlais de différents sirops, je parlais de bois, donc ce qu'on appelle des merins pour faire des fûts. Donc on est en conversation tout à fait avancée, même en signature là avec des tout un tas de chargeurs. Et donc en fait les bateaux sont pleins quasiment tout le temps, donc on est content. Et puis on découvre aussi des produits à chaque fois. Donc c'est là où on en est. Et puis on crée autour d'Anemos un véritable club des chargeurs.
Donc le fameux label que tu as créé avec Gala.
C'est ça, donc c'est pas pareil de mettre un label de transport sur une tablette de chocolat, un paquet de café, une bouteille de champagne, puisque le café, quand on le torréfie, perd 10% de son poids. Donc combien de fois Anemos a-t-on le droit par tonne de café vert transporté, sachant qu'il fait 250 grammes. Voilà. Donc il y a tout un tas de voilà. Parce que l'idée, c'est d'éviter la fraude, d'éviter l'allégation mensongère ou d'éviter que dans les années qui viennent, des produits soient dits transportés à la voile quand il y en a 10% transportés à la voile. Donc on a aussi tout un sujet sur la véracité, la crédibilité des allégations qu'on fait à mettre en avant. Et ça, c'est aussi nos clients qui en sont les premiers gardiens, ambassadeurs. Aussi.
Alors là, je suppose que tu es en train de bercer Inès.
Oui, pardon.
Juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, c'est les aléas.
Là, qui a 3 mois. J'ai la son transat sous le pied, ouais.
Il n'y a pas de souci. Tant mieux si elle dort.
Excusez-moi pour le bruit. Ouais, du coup, il y a un petit bruit de.
Non, mais t'inquiète. Au moins, on sait pourquoi. J'aimerais aussi revenir. Alors, c'est tout ce que tu fais, tout ce que vous faites chez Toad, c'est assez incroyable. Mais tu l'as évoqué rapidement et j'aimerais qu'on insiste un petit peu sur ce point. C'est tout ce qui est lié au transport de personnes. Ces fameux voiliers cargo permettront aussi le transport de personnes.
Tout à fait. Le bateau est fait pour pouvoir, en plus donc de l'équipage, avoir 12 passagers à bord. Il y a 6 cabines doubles qu'on peut plus ou moins séparer, forcément pour des couples, hein, mais enfin, il y a 4 cabines doubles et une cabine à 4 avec des dortoirs. Et donc les cargos ont le droit de transporter des passagers, hein. C'est pas des bateaux passagers d'un point de vue légal. Donc nous, on prend pleinement ce droit-là en tant que cargo de transporter des passagers. Donc oui, on va d'ailleurs proposer une liste d'attente là dans les semaines qui viennent où c'est pas vraiment une réservation, mais on peut dire qu'on est intéressé. Pour aller, bah, ça prend 13 jours hein, pour aller à New York, ça prend 15 jours pour aller à Pointe-à-Pitre, ou ça prend 14 pour aller à Abidjan, aller-retour, ou ça prend 17 pour aller à Djibouti. Et donc, on veut pouvoir proposer à des gens, pour des raisons parfois d'expérience maritime, ou d'expérience même tout court, hein, avec la temporalité qui change, avec y a un aspect même de gens qui ont envie de vivre cette expérience, voilà, un peu l'aventure, peut-être d'un certain âge parfois, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, tout à fait.
Par contre, d'autres, beaucoup plus jeunes, un peu génération Greta, qui se disent juste non mais moi je prends pas l'avion, j'ai un projet d'aller je sais pas quoi en Amérique du Sud et nous on propose d'y aller finalement 13 jours c'est pas ou 14 jours c'est pas si long que ça, donc on peut aller à Pointe-à-Pitre et derrière il y a Santa Marta, il y a Puerto Cortés, il y a Veracruz, donc on va dans ces destinations là et on propose ça coûte pas gratuit du tout, hein. Ça coûte moins cher qu'une business class en avion, mais vous êtes aussi nourri, bien.
Et en même temps, c'est une expérience dont on se souvient toute sa vie, quoi.
On est aussi, on va pas manger une entrecôte saignante au milieu de l'océan, hein. Donc on met pas de deep frozen, on n'en va pas avoir de chambre froide à moins 20. Ouais. On va évidemment avoir une chambre froide à 5 degrés comme un frigo. On veut pas être des bateaux forcer tout le monde à devenir végétarien non plus. Donc on aura un peu de viande au début et puis au milieu et à la fin, on aura des fromages, des charcuteries, des œufs, des choses comme ça. Beaucoup de légumes, à la fin plutôt des oignons et des voilà. Non mais c'est vrai, on veut retrouver aussi ce côté-là hein, pour des raisons carbone, de pas avoir un groupe électrogène qui passe son temps à refroidir à moins 20 un truc dont on sort des burgers qu'on met au micro-ondes, non mais l'enfer. Pour des raisons de coût, et puis de toute façon il y a un cuistot à bord, hein, donc il va s'occuper de ça et ça fait, puis c'est très très bon hein, du. S'il y a des gens végétariens, il y aura une option, évidemment, mais c'est très très bon de des pâtes carbo et voilà ou de voilà. Hein. Donc on a aussi une à bord pour tout le monde, donc les marins y compris, une approche où ce sera 15 jours sur un frigo. Hein, donc certains l'ont connu là dans le confinement. Bah, au bout de 15 jours sur un frigo, il y a plus trop de salade, plus trop de
choses comme ça. On a bien optimisé quoi.
Ouais, on a bien optimisé. Donc c'est ça l'objectif. Nous, l'objectif, c'est que ça coûte aussi pas trop. Ça coûte pas trop cher et qu'on puisse avitailler. Donc c'est-à-dire, on avitaille un navire dans les pays de destination. Bah tout simplement en envoyant le commis et le cuistot au marché à Santa Marta ou à Abidjan et ils y vont avec une brouette là. Ou une camionnette plutôt, et ils reviennent avec des produits que eux-mêmes savent traiter, quoi. Pas forcément aller uniquement chez les ship chandlers qui amènent avec trois coups de clic des produits à moins 20 degrés qu'on met directement, qui viennent de je ne sais où à l'autre bout de la planète et qui sont dégueux et qui sont sanitairement contrôlés. Non, nous, l'idée, c'est de pouvoir contrôler aussi ce qu'on mange, de bien manger.
C'est tout simplement toute la cohérence du projet se retrouve là aussi quoi.
C'est ça. Et puis alors par exemple quand on va au marché à Abidjan, qu'on veut acheter de l'huile de, enfin du lait de coco ou de l'huile de palme, parce que l'huile de palme c'est pas forcément, enfin c'est aussi artisanal et local dans certains endroits.
Ouais, il faut rester raisonnable, oui, tout à fait. Et puis tout dépend de comment se produit.
C'est le moment où on achète plein de lait de coco et plein d'huile de palme, hein, qu'on n'achète pas sinon quand on est au Havre en escale, où on achète plutôt voilà d'autres choses.
Excellent. Et justement, alors bah tu nous as raconté vraiment toute l'histoire de, enfin une petite partie de l'histoire de Tok, parce que j'imagine que tu pourrais nous en dire encore pendant des heures. Mais comment tu vois justement l'évolution plus de, alors j'ai pas envie de te demander l'évolution du fret maritime en général, mais du transport vélique, parce qu'il y a d'autres initiatives qui commencent aussi à arriver comme ça. Comment tu vois les choses dans les années à venir, sachant que en plus récemment il y a encore un rapport du Chiffre Project qui évoque qu'il est très probable que les approvisionnements en pétrole soient de plus en plus difficiles, et donc j'imagine que ça aura un impact sur le fret maritime. Comment tu, alors avec ces quelques éléments là, il y en a beaucoup d'autres, comment tu vois l'évolution du transport vélique pour les années à venir, mis à part évidemment l'arrivée de vos fameux voiliers cargo?
Alors, j'ai souvent une réponse assez facile à ça, c'est que j'ai complètement des œillères, je suis complètement la tête dans le guidon, je suis dans mon truc, je suis un acteur, j'ai du mal à prendre, à descendre du vélo et me regarder pédaler. J'ai donc être un observateur et dire les grandes tendances du futur avec les projets amis et néanmoins concurrents, avec les différentes technologies de Flettner, de Kite, d'Ell, de Gréement, etc. C'est une analyse macro économique que je laisse à d'autres dans leurs bureaux, derrière leurs écrans. Nous, on est, je parle à notre toute petite échelle, de façon hyper humble et respectueuse de tout le monde, de notre espoir, de notre ambition de mettre ces bateaux à l'eau, de notre parfois de nos angoisses de ne pas y arriver. Enfin bref, hein, c'est, on est tout le temps entre les deux. Donc voilà, une chose. Alors je ne sais pas, en gros. Hein, j'espère que il y a une grande compagnie. Alors il y a Emmanuel Macron qui a accordé une garantie de prêt public, donc de notre argent, aux banques, qui à hauteur de 1,05 milliard d'euros. C'était au mois de août là, donc 2020, à la première compagnie maritime de transport maritime française. Et on a appris ce jour-là.
Où, tu veux dire en 6 lettres?
Oui, c'est ça. Ouais, je le vois. Puisque le pétrole n'était pas assez cher, alors donc en gros les lignes asiatiques passent par la mer Rouge et Suez pour gagner un peu de distance, mais le pétrole étant suffisamment bas à cause du virus, là, ça valait plus le coup d'accélérer un peu et d'aller passer par Bonne Espérance, donc faire plus de chemin. J'ai trouvé que le signal était vachement… donc pour des raisons sanitaires, on allait sauver… enfin. Comme s'ils en avaient plein, mais genre 1 milliard d'euros à cette entreprise-là, parce qu'on considère que c'est stratégique, etc. Et le jour où il y a cette annonce qui est faite, eux disent, bah, vu le prix du pétrole, on va faire, je crois que c'est 3000 milles de plus, pour faire le tour de l'Afrique en accélérant, donc en consommant plus de pétrole, mais il n'est pas cher, donc ça le fait, pour ne pas avoir à payer la soulte du passage du canal de Suez.
Donc, c'est alors… comme tu vas bientôt aller en Éthiopie, enfin c'est vraiment un coût considérable ce passage.
Non, mais quand on est bon, ça dépend. Non, c'est plus ou moins proportionnel au déplacement. Bon, c'est pas neutre, mais voilà. Mais après, quand on met 18 Philippins et que la tonne de fuel lourd elle vaut $150 et qu'on voilà. Et qu'on a 15 000 conteneurs, on se dit, bah, il suffit d'accélérer un peu. Moi, je préfère brûler un peu de fuel, ça vaut tellement rien. Mmh. Et, c'est toujours pareil, c'est une analyse coût. C'est une façon, en plus, tout se fait dans la négo. Enfin, c'est un peu le shipping, c'est un peu une industrie de gros bras. Hein, tout se fait un peu. Ça permet de mettre de la grosse pression à l'autorité du canal, hein, à Suez.
Oui, bien sûr.
Du coup, eux, ils ont baissé leur. Du coup, eux ont baissé leur. Leur tarif, là, récemment, j'ai appris ça. On a donc des initiatives de verdissement, comme j'adore ce mot, de verdissement, des de décarbonation des transports maritimes, qui sont souvent volontaires, autodocumentés. On a au niveau de l'Union européenne une base de données qui s'appelle MRV, qui est censée de façon autodéclaratoire, du coup, fournir les consommations, donc les émissions des bateaux qui font escale dans les ports européens. Bon, en fait, il y a plein d'incohérences d'une certaine façon dans cette base de données-là. Donc, en fait, on évolue beaucoup et toujours dans une opacité assez importante dans le domaine du shipping. Personne ne sait vraiment quel bateau émet quoi. Et puis, de toute façon, le client final ne sait pas tellement ce qui se passe. On y met des...
Oui, et puis sous couvert que c'est anecdotique pour chaque paquet.
Green label, donc voilà, on veut mettre des labels industry cross, enfin à travers l'industrie, pour promouvoir les bonnes pratiques. L'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, a convenu, alors pour l'instant de façon non contraignante, que les émissions globales du transport maritime devront être réduites de 5%. D'ici 2050. Alors d'ici 2050, il n'y aura plus personne de ceux qui sont là en 2050 en train de vérifier. Et donc on est clairement dans une espèce de discours qu'on aimerait un peu performatif, mais avec dans le shipping on va dire conventionnel une vraie difficulté en fait à assumer vraiment la transition carbone. Il y a eu un gros effort, faut le dire, sur la transition sur les gaz soufrés notamment et oisetés, SOx, NOx, NO2, SOx, avec donc certains sont plutôt allés vers les scrubbers, c'est une espèce d'immense filtre là qui marche plus ou moins bien, qui sont plus ou moins scandaleux parce qu'ils rejettent l'or, ce qu'ils ont filtré, ce qui est super dégueulasse, dans l'eau ou pas. D'autres vont plutôt dans des fuels désoufrés, d'autres passent plutôt GNL, au gaz naturel liquéfié. Donc ça, c'est peut-être d'un point de vue sanitaire, pour éviter que notamment les populations dans les ports des allergies, on ne sait pas trop, d'ailleurs c'est pas super bien documenté, mais en gros c'est le soufre dans l'air. Donc le transport maritime, c'est 25% des émissions de soufre mondiales, donc c'est monstrueux, c'est plus que les volcans. Et donc ça crée quand même des pluies acides, enfin c'est quand même vraiment on essaie de faire, il y a quelque chose, un vrai effort on va dire qui est fait là-dessus avec plusieurs solutions technologiques. Donc ça, c'est sur les aspects particules et soufre, mais rien de ce dont on parle de carbone. Le fioul, qu'il soit décarboné ou pas, c'est la même chose d'un point de vue des ours blancs, si j'ose dire. On nous vend beaucoup le gaz naturel liquéfié comme étant un vecteur de révolution de la décarbonation des transports maritimes. Alors je veux pas du tout polémiquer, grosso modo, quand on va brûler dans une machine gaz naturel liquéfié, on va effectivement, si on prend vraiment les œillères et qu'on regarde uniquement la machine et le déplacement du navire, on économise de l'ordre de 10 à 15% d'émissions de CO2, 20 disons. Ça veut quand même dire qu'on émet 8 sur 10 du fossile qui vient directement du fin fond de la Terre. Ce qu'on ne dit pas, c'est que du coup, les cuves de GNL sont immenses, infiniment plus grosses que celles de fioul. Donc en fait, on transporte moins de marchandises, donc on a…
dans l'absolu, on émet plus, quoi.
Je le dis de façon purement, c'est à la limite, c'est Lavoisier et Descartes, c'est beaucoup de militants, ce que je dis. Dans l'amont de l'approvisionnement du gaz naturel, c'est du méthane, c'est du méthane fossile qui vient grosso modo de Norvège, d'Algérie, de Russie, surtout de Russie. On est dans clairement une politique russe du plus grand énergéticien français, le gouvernement le suit bien volontiers. Dans l'amont de l'approvisionnement en gaz, de ces stations de compression et refroidissement pour faire du gaz naturel liquéfié, on a plusieurs points de fuite en fait. Donc le méthane, il fuite, c'est comme ça. Et alors on ne le torche pas. Certains résidus de raffinage de pétrole sont torchés en haute colonne. Ceux qui ont vu des
raffineries,
des flammes qui brûlent en haut. Le méthane, on le brûle pas. Mais brûler, c'est une façon de transformer en CO2.
Oui, tout à fait.
Le pétard, on le torche pas, c'est trop dangereux parce que ça exploserait sinon. Et donc, on les met dans l'atmosphère bien gentiment. Et le méthane réchauffe l'atmosphère 83, je crois, fois plus que le CO2.
Je crois que c'était 20 fois moins.
Dans l'atmosphère qui est super longue. Donc en fait, on nous vend une révolution technologique des solutions de propulsion en disant tout va bien, on a plein de peintures vertes en stock là. Et donc, sauf qu'en fait, on est d'un point de vue, regardons nos enfants dans les yeux, enfin regardons-nous en fait dans les yeux, on est en train de faire, au nom du business as usual, une sorte de solution positiviste ingénieriale qui en fait est pire que le pétrole y compris. Ce que dit le Shift et Mathieu Zano notamment, ce qui est vrai, c'est qu'on se rend compte qu'en fait des pétroles de qualité, ben il y a quand même, c'est quand même pas non plus la fête, hein, clairement, loin de là. C'est un peu même complètement flippant, hein, Mathieu Ozano, qui aime beaucoup la voile d'ailleurs, de même que Jean-Marc Jancovici. Bah, ils sont bien conscients, comme tous ceux qui regardent les chiffres d'un point de vue géologique, que du pétrole, bah, c'est clairement la fin des années folles. Hein. Par contre, du gaz, il en reste. Hein. Donc, il en reste, pas
du gaz beaucoup, et hein, du charbon, il en reste, ça, il n'y a pas de souci. Ouais.
Donc, et puis on se rend compte qu'il y a une accélération. Hein. Donc laisser une planète inhabitable, non pas en 2500, hein, non pas en 2400, mais probablement en 2080. Bah justement, il y a Inès là, qui a 3 mois. Je la regarde et je dis non, je suis obligé de tenir ce discours, même si on est dans une entreprise. Voilà. Donc nous, on est dans une entreprise avec un niveau d'exigence environnementale qui est fort. On le fait pas par militance, on le fait parce que ça plaît à nos clients. Hein. On est une entreprise, on est dans une démarche commerciale d'être très exigeant. Voilà.
Et puis ce qui est génial, c'est de se dire aussi que ces clients-là n'étaient pas là il y a 10 ans et qu'en fait, ils vont être de plus en plus nombreux aussi.
Ah, puissent-ils t'entendre ? Mais oui, tout à fait, ils vont t'entendre. Mais merci d'ailleurs de contribuer hein, d'une certaine façon à ce qui est… Voilà. De se donner le temps de pouvoir en parler, d'échanger là-dessus. Donc ça, c'est sur le shipping en général. Alors, le virus montre aussi que le shipping est quand même résilient. Les clients ont quand même besoin de services maritimes. Là, l'OCDE publie un rapport à Olaf Mer il y a pas longtemps où lui voit plutôt la fin de la course au gigantisme, du toujours plus grand, peut-être des bateaux plus petits, plus proches des zones véritablement de l'Interland, là où il y a besoin des flux. Donc ensuite, dire est-ce que la voile peut permettre de transporter les 11 milliards de tonnes dont tu parles ?
Voilà, je pense que la question n'est pas là. Hein, et je pense
la question, exactement. Bah voilà,
mais pour moi, je pense que la voie que vous êtes en train d'ouvrir chez Taut, elle est hyper intéressante dans le sens où elle fait en sorte que les gens se posent la question de qu'est-ce qui est vraiment nécessaire d'importer, qu'est-ce qu'il faudrait aussi peut-être reproduire chez nous, hein, recréer toutes ces chaînes de production que tu as évoquées rapidement avec les chaînes de avec la chemise par exemple. Mm-hmm. Et je pense que c'est un équilibre, mais c'est aussi intéressant de se dire que il y a toujours des voies alternatives et qui en plus s'inscrivent beaucoup plus dans les écosystèmes naturels comme tu l'as très très bien présenté. En tout cas, Guillaume,
qu'est-ce qui supporte 40 centimes le kilo pour traverser l'océan ? Et est-ce que dans un monde où, alors pour des raisons de contraintes réglementaires internationales auxquelles je ne crois pas du tout, ou tout simplement parce qu'on est obligé, parce que des hydrocarbures il y en a moins et que le monde devient invivable, est-ce dans ce monde-là, on arrête de boire du café, de manger du chocolat, d'exporter du cognac, du champagne ou des confitures ou d'importer de l'agave et de l'érable, c'est qu'en fait, on s'y est un peu mal pris si on le fait comme ça et ce sera un monde assez difficile que voilà, on peut pas se souhaiter ou à nos enfants. Si on arrive à de toute façon à affronter la sobriété énergétique, qui veut dire du moins vite, qui veut dire du moins chaud, enfin qui veut dire du forcément du plus cher, puisque enfin au sens une différente valeur aux choses, on pense qu'il est intéressant d'avoir des grands voiliers de transport et d'anticiper ça. Hein. Donc nous là, on parle de 4 bateaux actuellement, on est en train de réfléchir à beaucoup plus même. On est en train de réfléchir à une autre génération de navires derrière. Donc on a aussi une forte ambition sous-jacente, hein. On a un système qui soit financier, politique, maritime, logistique, qui est quand même très très structuré, et on essaie de se faire entendre en son sein. C'est de plus en plus le cas, on en est content, parce que ça nécessite aussi de pouvoir structurer un projet d'entreprise, d'avoir un discours institutionnel, d'être bordé dans la façon dont on fait les choses, de pas être mis dans la boîte des hippies pirates des Caraïbes là, et ni des militants écolos, etc., mais au contraire d'être dans un projet d'entreprise avec des partenaires. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de mettre en place, non par idéologie capitaliste ou d'entreprise, mais bien parce qu'il faut jamais perdre de vue show me the money, hein, c'est ce que ont toujours dit les Anglais, et que ce soit le label Anemos ou que ce soit en général ce qu'on fait, si on ne peut pas valoriser le paquet de café ou la tablette de chocolat transportée à la voile d'une certaine façon auprès du client final, aujourd'hui le transport conventionnel à base d'hydrocarbures il est plus efficace que nous. Donc nous, l'idée, c'est de bien internaliser les externalités environnementales positives permise par le transport à la voile. Donc ça, c'est un discours que j'ai très volontiers sur ton podcast, Brieux, parce que les gens comprennent cette externalité environnementale positive, a fortiori. Nous, on a des externalités environnementales positives. Il faut qu'on soit capable d'en trouver le prix, de mettre le prix, et que ce soit les bonnes personnes qui payent ce bon prix-là, qui ne soient pas trop élevées, et qui soient bien compris et transparents pour tout le monde.
Bah écoute, Guillaume, bravo déjà, bravo pour tout ce que vous avez fait avec Diana, et puis ton équipe, enfin votre équipe. Et est-ce que t'as un petit mot à rajouter éventuellement ?
Merci beaucoup à tous, de votre attention. Je suis très preneur de messages, de commentaires, etc. Si je vous réponds pas, ne m'en voulez pas, j'ai pas très peu de temps, mais on gère comme on peut. Merci beaucoup à toi, Brieux, d'avoir pris contact avec nous et de la magnifique initiative que tu as avec la cinquantaine de podcasts que tu as fait jusqu'à présent.
Ouais, on y arrive là. Je me demande même si ce ne sera pas toi le cinquantième.
Alors, on parle d'économie circulaire ici, juste peut-être pour trouver cette convergence et conclure. Je comprends, moi, vaguement, j'essaie de comprendre ce qu'est l'économie circulaire. Nous, on est dans un tour de l'océan. On est, par exemple, pour le compte d'un producteur de chaussures équitables, là, dans le Brésil, dans l'idée de leur apporter également les chaussures une fois qu'elles ont été recyclées en France. Je parlais de Longto, on va amener dans un sens les produits dont ils ont besoin, la distillerie, et dans l'autre sens, les produits finis qu'ils ont fournis là-bas. Et clairement, il y a dans l'idée du circulaire, l'idée de la rondeur de la terre, de la rondeur des coques et des tours qu'on fait autour de l'océan. Et je suis assez persuadé que pouvoir parler d'un transport véritablement décarboné, c'est-à-dire sans truchement technologique où en fait on n'est pas vraiment décarboné mais en fait on compense alors t'en fais pas, mais ça permet de se remettre dans une temporalité, dans une unité de stockage, de voir sur le long terme, de voir avec les saisons, qui me va dans l'idée de la circulation.
Oui, et puis je trouve qu'on cette idée, non mais je trouve qu'on a vraiment cette idée, et tu l'as évoqué effectivement, de se réinsérer dans les écosystèmes, et c'est exactement comme ça qu'on perçoit l'économie circulaire chez Circulab. Parfait, écoute,
merci beaucoup,
un grand merci à toi.
À très bientôt alors.
Ça marche, à très bientôt, et encore bonne route à toi.
Merci, bon vent, belle mer, et bon car à tous.
Merci.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.